Alors, la Cour constitutionnelle vient d'éreindre son arrêt par rapport à la requête de la CENI sur le processus électoral en RDC. Elle ordonne notamment à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral et au gouvernement de prendre sans tarder des dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées afin d'éviter le chaos. Quel est le faire de cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Nous en parlons avec Patrick Thierry André Kakwata. Il est député national de la majorité. Il est président du mouvement des réformateurs libéraux MRL, parti qui soutient Joseph Kabila. Il est premier vice-président de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Bonsoir Patrick Thierry André Kakwata.
Bonsoir.
Albert Fabrice Puella, il est député national de l'opposition, il est leader du parti pour la Renaissance du Congo Réco en sigle. Bonsoir Albert Fabrice Puella.
Bonsoir Guy.
Et Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes et l'inélite en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à état en sigle. Bonsoir Jérôme Bonso.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix, Radio Okapi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Après avoir constaté l'impossibilité pour la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les délais légaux, la Cour constitutionnelle ordonne à la Commission électorale d'évaluer tout le processus électoral. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures transitoires pour éviter les chaos dans les nouvelles provinces. On écoute cet extrait de l'arrêt de la Cour rendu par son président Benoît Luamba au micro de Jeff Ngoï.
La Cour ordonne au gouvernement de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale. Enjoint au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République. La Cour affirme le caractère irréversible du processus d'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces concernées par la loi de programmation numéro 15/004 du 28 février 2015. Constate néanmoins la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d'organiser dans les délais légaux, je voulais dire, les dites élections en l'absence d'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales.
La CENI va-t-elle retoucher son calendrier électoral? Et puis le non-respect des délais légaux va-t-il bousculer tout le reste du processus? On écoute Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI au micro de Jeff Ngoï.
Les arrêts des cours ne sont pas susceptibles de débats et d'avis. La commission prend acte et la plénière va se réunir. Souffrez que l'assemblée plénière dont je suis porte-parole reçoit la notification de l'arrêt, l'examine et en tire les conséquences. Je vous rendrai compte d'une façon responsable. L'arrêt demande au gouvernement d'accélérer l'installation des bureaux et de faire accepter les règlements en vue de nous permettre de faire les élections. Vous avez suivi l'arrêt au nous demande de réévaluer. Nous allons réévaluer en toute responsabilité et nous vous rendrons compte pour informer dignement la population, l'opinion nationale et internationale.
En réaction, le porte-parole du gouvernement souligne que l'exécutif prendra toutes les mesures pour mettre en application les arrêts de la Cour constitutionnelle. Lambert Mende est joint par Michel Kifindangoï.
Le gouvernement attend d'être notifié de cet arrêt pour pouvoir se réunir et identifier les mesures urgentes à prendre pour pouvoir mettre en œuvre l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Le Premier ministre a avoué à la Cour que le gouvernement ne disposait pas de cette enveloppe de 2 millions de dollars pour faire organiser ces élections. Mais aujourd'hui, la Cour a joint encore au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour mettre ses moyens à la disposition de la CENI. Qu'est-ce qui va arriver maintenant si vraiment il n'y a pas d'argent?
Il est évident que le gouvernement, et la Cour est revenue là-dessus, a indiqué qu'il s'agissait de dépenses qui n'étaient pas budgétisées et que le gouvernement n'a pas la possibilité de faire des miracles. Mais le gouvernement va pouvoir se réunir, je le répète, pour examiner les tenants et les aboutissants de l'arrêt de la Cour et rendra public les dispositions pratiques qu'il va prendre pour pouvoir les rencontrer.
Patrick Thierry-André Kakwata, je rappelle que vous êtes député national de la majorité au pouvoir. Vous êtes président du mouvement des réformateurs libéraux MRL. La Cour constitutionnelle vient de rendre ses arrêts sur le processus électoral en RDC, tout en reconnaissant la force majeure empêchant la CENI d'organiser dans les délais les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. La Cour constitutionnelle affirme néanmoins les caractères irréversible du processus d'élection de ces gouverneurs et vice-gouverneurs. Comment vous analysez cette décision de la Cour constitutionnelle?
En soi, cette décision, comme on vous dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'appelle pas débat ou appelle soit recours, c'est une décision qui est constitutionnelle et que le processus électoral est irréversible. Nous tous nous saluons cela et que la Cour n'a fait que nous rappeler. C'est irréversible.
Oui, le processus est irréversible, mais on reconnaît quand même que la CENI qui doit organiser ces élections a des problèmes. Il y a des pesanteurs, n'est-ce pas, qui ne lui permettent pas d'organiser ces élections.
Oui, on reconnaît qu'il y a des pesanteurs, mais face à ces pesanteurs, c'est pour cela que la Cour a dit que le gouvernement puisse prendre des mesures exceptionnelles, de sorte que nous puissions surmonter ou que la CENI puisse surmonter ces difficultés et arriver à organiser ces élections. Personne n'a dit que ces élections n'auront pas lieu. Ces élections auront bel et bien lieu, mais compte tenu du retard, compte tenu des difficultés qu'il y a, la Cour est allée plus loin en demandant au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles en attendant que la CENI puisse organiser ces élections. Donc, quelque part, il y a un petit retard, mais que la CENI organise ces élections, mais de ce vide pour qu'il n'y ait pas un chaos, qu'il n'y ait pas un vide juridique dans le pays et que l'autorité de l'État doit se faire sentir sur toute l'étendue de la République, la Cour constitutionnelle va plus loin pour demander au gouvernement, mieux vaut prévenir que guérir, et que par la continuité de l'État, on ne peut pas laisser des vides juridiques à des endroits, parce qu'aujourd'hui nous avons 26 provinces, mais dont 21 provinces n'a pas de gouverneur, n'a pas de gouvernement provinciaux. Donc c'est tout à fait normal.
Oui, honorable Kakwata, puisque vous parlez du gouvernement, la Cour a adjoint, n'est-ce pas, au gouvernement de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces, donc des provinces nouvellement créées. Et pendant qu'elle, elle-même, la Cour rapporte que le gouvernement dit n'est pas disposé des 2 millions, n'est-ce pas, c'est ça le budget, n'est-ce pas, pour financer ces élections. Elle reconnaît d'un côté que le gouvernement n'a pas ces moyens-là, mais entre-temps, elle oblige au gouvernement de doter la CENI de ces moyens. Comment vous expliquez cela?
Oui, là, il y a un problème, parce que normalement, par l'indépendance judiciaire ou la séparation du pouvoir, bien que le pouvoir étant un, la Cour ne peut pas enjoindre au gouvernement, tout comme vice-versa, le gouvernement ne peut pas aussi enjoindre au niveau de la justice. Mais là, il y a un problème, on ne peut pas enjoindre. Mais ce qu'il y a, c'est que, il faudrait comprendre, quand le gouvernement dit nous n'avons pas 2 millions, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement sur le plan budgétaire, le budget que nous avons voté, parce que vous parlez au moins à une autorité budgétaire que je suis, le budget que nous avons voté, on n'y avait pas prévu ces élections. Si bien qu'il fallait qu'il y ait collectif budgétaire. Mais ce problème s'est passé, nous sommes en vacances parlementaires. Ça tombe bien que nous sommes en train de rentrer d'ici mardi le 15 septembre. Nous serons en session, que nous pouvons, et d'ailleurs ce sera une session budgétaire, que nous allons maintenant essayer de mettre cette histoire des élections de gouverneurs pour qu'il y ait maintenant une rubrique spéciale pour ces élections de gouverneurs en essayant de dégager ces 2 millions demandés. Mais au temps où ces 2 millions étaient demandés au niveau du gouvernement, le gouvernement ne pouvait que donner cette réponse parce que sur le plan budgétaire qui a été voté en septembre 2014, rien pour 2015, rien n'a spécifié ces élections. Donc quelque part, il y a une raison qui est donnée, mais qui nous interpelle, nous, autorités budgétaires, nous, élus du peuple, le mardi 15 septembre, au moment de l'ouverture de la session, que nous puissions, soit en collectif budgétaire ou soit au moment de l'élaboration du budget, qu'on en tienne compte de ces élections. Donc, à dire qu'on enjoint, je trouve qu'on ne peut pas enjoindre. La justice n'enjoint pas et vice-versa, le gouvernement n'enjoint pas aussi sur la justice. C'est un seul pouvoir, mais nous sommes en train de l'exercer par séparation de pouvoir. Les législateurs, l'exécutif, et la justice. C'est un peu ça ma lecture
de choses. Oui, honorable Kakwata, et si l'arrivée que le gouvernement n'obtempère pas à l'injonction de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est vrai que nous venons de suivre les porte-paroles du gouvernement qui dit que l'exécutif prendra toutes les mesures pour mettre en application les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais si l'arrivée que le gouvernement n'obtempère pas à cette volonté, à cette décision de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Non, il n'y a pas de problème d'obtempérer ou quoi que ce soit. C'est un seul pouvoir, nous sommes sur une seule république démocratique domestique du Congo, donc il n'y a pas un problème qu'on ne doit pas obtempérer. Parce que le problème, je viens de vous dire que l'autorité budgétaire va entrer en danse. Et l'autorité budgétaire, c'est nous qui vous parlons à ce jour. L'Assemblée nationale et le Sénat. Donc nous allons tenir compte, nous allons nous approprier de cette situation pour que réellement l'autorité de l'État puisse s'installer sur toutes les étendues de la République et que la paix y soit, et que la Constitution soit respectée. Donc il n'y a pas un problème d'obtempérer ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas un chef. Nous tous, c'est séparation de pouvoir, mais pour le bien-être de la République. Nul n'est chef de l'autre pour dire que moi je te donne des ordres. Non, non. Mais nous allons essayer de travailler toujours en harmonie comme nous avons toujours travaillé et dans le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo et des institutions, sans oublier que nous avons un garant de la Constitution qui est là pour regarder le bon fonctionnement des institutions, qui est le chef de l'État, l'arbitre de tout, et qui est là, et personne n'a envie de voir la République sombrer dans le chaos, personne.
Honorable Kakwata, que répondez-vous à ceux qui pensent que les arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont été rendus aujourd'hui arrangeraient la majorité au pouvoir?
Non, pourquoi arrangerait la majorité au pouvoir? On peut dire aussi qu'elle n'arrangerait pas la majorité au pouvoir. Parce qu'il faut toujours se dire que quand il y a une décision, la décision a toujours des conséquences. Et de ces conséquences des décisions, il y a une partie qui est toujours lésée et il y a une partie qui se sent très à l'aise. Mais dire que ça arrangerait la majorité au pouvoir, mais on dira peut-être non, parce que c'est aussi peut-être une partie de choses qu'on a donné au pouvoir. Pour voir comment quelqu'un se comportait vis-à-vis de la population, parce qu'il faudrait savoir qu'on est en train de gérer des humains. Donc il ne faudrait pas toujours sauter que ça arrangerait, mais ça peut aussi être une patate chaude donnée au gouvernement.
Merci, honorable Albert Fabrice Puella. Vous êtes député national de l'opposition, leader du Parti pour la Renaissance du Congo, RECO, en cible. La Cour constitutionnelle ordonne à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral. Vous, en tant qu'acteur politique, comment vous réagissez à cette décision de la Cour constitutionnelle?
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer les collègues qui est avec nous, qui débat avec nous, ainsi que notre aîné M. Jérôme Bonso, ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent à cet instant. Mon cher Guy Maté, c'est pas moi qui dis que la justice élève une nation. Et ce n'est pas par hasard aussi que la devise de notre pays, c'est justice, paix, travail. On ne peut pas avoir de paix lorsqu'il n'y a pas une bonne justice. On ne peut pas non plus travailler de manière sereine lorsque la justice pose problème. Nous avions tous attendu la Cour constitutionnelle qu'elle soit mise en place. Nous sommes battus pour cela. Elle a quand même été mise en place. Aujourd'hui, c'était au fait le premier rendez-vous sur base duquel nous devrions émettre un jugement ou même nous dire que non, nous sommes bien partis. Mais
quel est ce jugement que vous émettez après ces arrêts?
C'est une très très grande déception. Je dois d'abord souligner que nous intervenons, je suis un acteur de la justice, un auxiliaire de la justice en tant qu'avocat, mais ici je ne suis pas là comme avocat, mais je viens comme acteur politique, c'est que cela soit clairement dit et compris.
Et pourquoi vous êtes déçu?
Nous sommes déçus parce que il est connu par tout le monde, même par les juges de paix, que lorsque vous êtes saisi d'une action, d'abord même, vous examinez la saisine. Est-ce que la personne, personne morale comme personne physique, qui saisit, est-ce que cette personne a qualité? La Cour constitutionnelle a, en droit public, la compétence est d'attribution. Lorsque la Cour constitutionnelle est clairement, c'est clairement dit que la Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité des lois, la constitutionnalité des actes. Mais lorsque vous avez d'abord une personne sans avoir qualité, parce qu'il y a qualité pour saisir la Cour constitutionnelle.
Là, vous parlez, vous pénalisez à la CENI qui a saisi la Cour.
Excusez-moi, je ne voudrais pas perdre mon fil d'idée. Lorsque vous avez Ce que prévoit justement le texte, c'est que c'est le chef de l'État, le chef du gouvernement, le gouvernement donc, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un groupe de députés suivant une quantité d'un dixième, le président des assemblées provinciales, tout comme les gouverneurs de province qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas la CENI. La CENI n'a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Et on l'aurait dû, d'une manière ou d'une autre, s'adresser à l'une des personnalités ou à l'une des instances citées si haut. Mais lorsque vous voyez M. Kalamba, rapporteur, même si on dit dûment mandaté, mais mandaté par qui? Par la CENI donc. La Cour constitutionnelle qui, dès le départ, se déclare incompétente. Même les juges de paix, donc les nouveaux juges, savent que lorsque vous êtes incompétent, la messe est dite.
Mais aussi,
vous ne
dit,
pouvez plus...
Mais aussi, la Cour constitutionnelle a dit qu'elle est compétente partiellement, étant donné qu'elle a aussi comme rôle, n'est-ce pas, de réguler le bon fonctionnement des institutions.
Non, pas du tout. Pas le bon fonctionnement des institutions. Il y a une compétence clairement définie dans la Constitution. Elle n'a pas ce rôle-là de réguler le bon fonctionnement des institutions, non. Il y a une nette séparation des pouvoirs. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous élaborons les lois, nous contrôlons le gouvernement exécute, et parmi ce que doit exécuter le gouvernement, c'est la loi, par exemple la loi budgétaire. Nous avons alloué à la CENI, pour l'exercice en cours, que les auditeurs me suivent très bien, 234 milliards de francs congolais, c'est-à-dire plus de 250 millions de dollars. Mais où est partie cette grande enveloppe? Et dans l'exécution linéaire, selon les rapports qui nous avaient été faits au 31 mai, il n'y avait que 30 millions sur les 250 millions déjà décaissés au profit de la CENI. Mais où est parti cet argent? Et qu'aujourd'hui, on nous dise que le gouvernement n'a pas 2 millions. Mais on est où là?
Les 2 millions, c'est par rapport à l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces.
Oui, nous voulons bien 2 millions, mais la CENI, si la CENI disposait de ces moyens pour son fonctionnement, mais ces moyens-là, c'est pour faire face à toutes ces échéances. Parce que gouverneur, c'est prévu.
Les échéances qui n'étaient pas prévues.
Non, mais gouverneur, c'est prévu. Mais si ce n'était pas prévu, mais à qui la faute? Mais c'est au gouvernement. C'est le gouvernement, gouverner, ça c'est un principe, même à l'école primaire, on apprend que gouverner, quand vous dites, mais gouverner, non, quand on gouverne, on doit prévoir justement. Alors, lorsque le gouvernement vient dire qu'il ne dispose pas de moyens, figurez-vous, ce matin, et c'est là la plus grande déception que nous avons, c'est un jour néfaste pour la démocratie et même pour la justice congolaise, ce matin déjà dans des radios périphériques, vous avez suivi avec nous, que le président de l'Assemblée nationale, et ça c'est très grave, qui dit urbi et orbi, que nous ne pouvons pas nous enfermer dans une fiction des dates quant à l'organisation des élections. Mais ça, c'est très grave.
Et vous établissez les liens avec les arrêts de la Cour?
Mais bien sûr, puisqu'il a annoncé les couleurs. Et la Cour, aujourd'hui, qui vient enjoindre à la CENI de réévaluer. Non seulement cela, enjoint au gouvernement de prendre des dispositions transitionnelles exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées. Mais quelles sont ces mesures? Parce que ça, c'est ce qui est grave. Mais lorsqu'on va prendre ces mesures, c'est en ayant combien de temps? Donc, il y a un piège. Au fait, la Cour, en l'ayant fait,
s'est situé dans la logique de la majorité. C'est nous a montré au fait que la Cour n'est là que comme au fait une instance qui conseille le gouvernement. La Cour ayant constaté qu'elle était non saisie, la messe était dite et devrait s'est déclaré non saisi et c'était fini et la, on devait vider la séance, la séance devait être levée, mais en allant au-delà, la Cour a statué ultra petita et ça, c'est un fâcheux précédent qu'on a créé, donc nous sommes très tristes. Les Congolais doivent apprendre aujourd'hui, nous ne voulons pas être alarmistes, mais que la Cour constitutionnelle s'est située dans la logique de la majorité, dans la logique du glissement, parce que figurez-vous, mon cher Guimaté, cher compatriote, vous qui nous suivez à l'instant, lorsque le gouvernement, parce qu'on ne dit pas quelles sont ces mesures transitoires exceptionnelles, lorsqu'on va nommer, parce que c'est ça en fait, les plans cachés, on voudrait nommer des fonctionnaires pour diriger ces provinces, mais c'est grave, en vertu de quoi? Nous allons saisir quelle juridiction à ce moment-là.
Jérôme Bonceau, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELITE en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Vous venez de suivre l'honorable Kakwata qui estime que les arrêts de la Cour s'inscrivent, n'est-ce pas, dans la rationalité, tandis que l'honorable Puella, qui lui est déçu par ces arrêts parce qu'il estime que c'est des décisions, n'est-ce pas, qui arrangent le gouvernement. Comment vous vous analysez cela, vous, en tant qu'expert en question électorale?
Merci, cher ami Guimaté. Je tiens à saluer mon co-débatteur à droite, honorable Fabrice Puella, et en saluant aussi honorable Patrick Thierry André. Ici, nous suivons la démarche de la CENI. La CENI qui saisit la Cour constitutionnelle. Ça prouve à l'œil nu que la CENI s'est trouvée dos au mur. La CENI est en train de chercher un bouée de sauvetage parce que la CENI est partie. La Cour constitutionnelle ordonne à la CENI de faire tout l'évaluation de tout le processus électoral. Et c'est de là que ça va porter sur deux étapes. Première étape, la CENI doit faire l'évaluation du cycle électoral 2013-2016. Et en tirer les conséquences, parce que quand ce cycle 2013-2016, quand nous faisons l'évaluation, ce cycle accuse déjà un retard de plus de 13 mois. La CENI doit faire maintenant l'évaluation de son calendrier électoral global. Allusion faite aux 23 contraintes contenues dans ce calendrier. Mais cela a été précédé par les trois tentatives de planification et d'organisation des élections que CENI avait présentées. Vous vous souviendrez, en date du 30 janvier 2014, la CENI avait présenté ce qu'elle appelait la feuille de route à la représentation nationale. Et dans cette feuille de route, la CENI avait programmé l'organisation des élections locales en février 2015. Et dans cette feuille de route, il y avait deux hypothèses. Et cette feuille de route a échoué. En août 2015, la CENI, en date du 26 mai 2015, la CENI a présenté ce qu'on appelle calendrier électoral partiel. Et là, l'organisation des élections locales était prévue du 29 août au 15 octobre 2015. Ça n'a pas eu lieu. Et suite aux pressions, on a demandé à la CENI de présenter le calendrier électoral global, d'où l'élection des députés provinciaux et autres était prévue en octobre 2015. Ça n'a pas eu lieu. Mais ici, où la CENI doit faire l'évaluation qui doit porter sur les trois tentatives de planification des élections. Et la CENI doit se rendre compte, si aujourd'hui l'arrêt de la Cour lui demande de faire une réévaluation du processus des contraintes contenues dans son calendrier électoral global, et la CENI doit se rendre à l'évidence que, en son temps, il avait présenté comme contrainte actualisation du plan de décaissement, et il avait demandé, avait donné la date critique 22 février. Mais quand on a clôturé la session de l'Assemblée nationale, en date du 15 juin, et on a ajouté session extraordinaire, cette demande de la CENI a connu un retard de plus de 155 jours. Quand la CENI a demandé aussi à ce qu'on puisse lui doter de la loi sur la répartition des sièges, la CENI avait donné une date critique. Et cette demande a connu un retard de plus de 113 jours. Autant de contraintes contenues dans le
cadre. Voilà, c'est pas suite à toutes ces contraintes que finalement la Cour constitutionnelle s'est sentie dans l'obligation de demander à la CENI de réévaluer tout le processus électoral.
La CENI doit réévaluer et tirer les conséquences.
Parce que dans la planification des trois tentatives d'organisation des élections, la CENI n'a pas tenu compte des facteurs temps et facteurs moyens financiers. La CENI n'était pas en possession de moyens financiers et rappelait les dates. Et ici, nous nous trouvons derrière le temps. Le temps n'est plus avec nous. Et si on va évaluer aujourd'hui le processus, vous voyez que le processus est maintenant bloqué. Et nous nous disons, le processus électoral congolais est au bord de la dérive. Est-ce qu'il faut décourager les bonnes volontés? Nous disons non, il y a encore de l'espoir à travers ce que nous nous qualifions ici en termes techniques, à travers quatre prémices électorales. Parce qu'en matière de philosophie, si les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. La conclusion pour nous c'est quoi? C'est l'organisation des élections apaisées. Et pour les organiser, comment nous allons nous en sortir au regard de cette évaluation? Parce que ici, l'arrêt de la Cour demande à la CENI de faire une déclaration formelle que le processus électoral est bloqué. Et comment s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, même si on mettait autant de millions à la disposition de la CENI pour organiser les élections dans le temps qui nous reste, la CENI ne va pas s'en sortir parce que le facteur temps est parti. Et il faudrait aussi se rassurer, est-ce que nous disposons déjà de moyens financiers pour aider à la CENI à faire ces élections? Nous disons non. Mais je viendrai après lors de la deuxième intervention pour dire quelle serait une issue de sortie et quelles sont les prémices qui pourraient permettre à sauver le processus électoral congolais qui est au bord de la dérive. Pour ne pas dire comment arriver à sortir de cette impasse électorale. L'impasse est là. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est pour faire parler la CENI en termes clairs qu'elle est dans l'impossibilité matérielle et organisationnelle de respecter les échéances qui sont contenues dans son calendrier. Autrement dit, ces 23 contraintes qui sont déjà toutes sont déjà dépassées.
Jean Bosso, vous affirmez que la CENI dans sa planification n'est pas tenu compte des facteurs temps et facteurs finances, et vous pensez que en réévaluant tous les processus électoraux, cette fois-là, la CENI pourra prendre en compte ces deux facteurs, le temps et puis les facteurs financiers?
La CENI est consciente qu'elle n'a pas à maîtriser, elle est dans l'incapacité de maîtriser le facteur temps. La CENI est consciente, elle est dans l'impossibilité de mobiliser le moyen financier à temps. Et par conséquent, la CENI est dans un cul-de-sac. Comment l'aider à sortir? C'est la Cour constitutionnelle a rendu cet arrêt pour lui permettre à charcuter son calendrier électoral. Même s'il va le charcuter aujourd'hui, est-ce qu'il a de moyens? Est-ce qu'il a de moyens? Parce qu'il a demandé le plan de décaissement de fonds qui n'a pas suivi sa planification. Et donc, comment nous allons sortir de cela? Il y a un problème. La CENI va réaménager le calendrier électoral global. Mais comment la CENI peut intégrer l'idée de découpage de certains scrutins? Ou bien comment la CENI va faire la révision du fichier électoral? Parce que le problème, je vais terminer par là, c'est très capital, cher ami Guy, le fichier électoral pose un grand problème. Parce que les uns ont qualifié ce fichier électoral de corrompu, de mauvais, ainsi de suite. La CENI elle-même, dans son rapport annuel, juin 2014, mai 2015, à la page 22, la CENI qualifie le fichier électoral d'un fichier électoral inadapté. Et maintenant, que faire pour
sortir? Et donc, M. Jérôme Bosso, vous êtes d'accord avec la Cour constitutionnelle qui estime que la CENI doit réévaluer tout le processus électoral?
Elle doit réévaluer et poser le problème. Merci. Et tirer les conséquences de cette évaluation. Merci. Parce que l'évaluation va déboucher sur l'incapacité organisationnelle des élections dans le délai.
Ah bon, donc ça ne va pas résoudre le problème?
Ça ne va pas résoudre le problème, il faut reposer le problème autrement sur l'angle politique.
Merci, honorable Kakwata, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Isiro.
Honorable Paulet Odiane de Ouné à Isiro, je ne partage pas le point de vue de la Cour constitutionnelle. Elle évoque le cas de force majeure étant donné qu'un principe de droit dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le gouvernement a délibérément bloqué les assemblées provinciales, a convoqué tous les membres des bureaux provisoires à Kinshasa pour un but non connu. En plus, la session extraordinaire n'a jamais été clôturée parce que les matières pour lesquelles elle a été convoquée ne sont pas encore épuisées. On ne peut pas se permettre de décider d'étaler les provinces, mais après on déclare que le gouvernement n'a pas d'argent, tout simplement parce que ils ont compris que les leurs ne seront pas élus. Évitons de jouer avec la vie de tout un peuple pour régler des comptes aux gens.
Honorable Kakwata, votre réaction?
Oui, je respecte son opinion et sa liberté d'expression, mais ce qu'il faudrait noter, c'est clair et net, je l'ai dit. Et j'ai suivi le collègue Iguela l'affirmer. Nous avons voté un budget en 2014 en perspective de l'année 2015. Il y a un montant que nous avons alloué à la CENI pour des élections. Et ce montant, quand il a été alloué à la CENI pour des élections, c'était des élections provinciales, municipales, locales, urbaines. Mais il s'avère que dans le parcours, il y a eu maintenant ce problème de élection de gouverneur. Parce que normalement, en soi, la loi sur la programmation de nouvelles provinces, il y a une clause qui dit très bien que quand ces provinces seront démembrées, le chef de l'État ou le gouvernement est en droit de nommer des commissaires généraux après l'arrêt des experts qui présentent leur rapport aux assemblées provinciales et que les assemblées provinciales adoptent le rapport directement. Les assemblées provinciales des membres vont dans les futures provinces et normalement on devait nommer les commissaires généraux. Les commissaires généraux devaient attendre les élections de gouverneurs. Et ce n'est qu'après qu'il y aura des gouverneurs, les nouveaux gouverneurs, à ce moment-là, que maintenant, ils feront la remise des reprises avec les commissaires généraux. C'est ce que la loi sur la libre, la loi sur la programmation de nouvelles provinces dit. Mais il s'avère qu'on a escamoté cet endroit-là de nomination des commissaires généraux. Nous venons d'escamoter en créant tout ce débat. Je suis d'accord avec le collègue Pouella quand il dit que la CENI n'était pas en droit de saisir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a été plus loin. Là, nous devons maintenant nous comporter en homme d'État. La Cour constitutionnelle s'est dit, je me déclare incompétent, mais c'est recevable partiellement. Recevable partiellement. Dans le sens que tout cela, si la Cour constitutionnelle aujourd'hui renvoyée en se disant, je suis incompétent dans cette matière, mais elle sera interpellée parce qu'il y aura violation de la Constitution. Alors la Cour constitutionnelle n'est revenue que maintenant là où elle se dit je reçois recevable partiellement, je reçois d'une manière partielle, pour que cela ne me soit pas retourné en violation de la Constitution, et c'est pour ça que cet arrêt est sorti. Et je cherche à dire, quand on se comporte en homme d'État, nous tous, nous devons savoir reconnaître nos propres erreurs, et s'il faut demander pardon à la population, nous demandons pardon. Tout un chacun d'acteurs politiques dans cette situation doit se reconnaître. Autorité budgétaire, honorable Pouella là-bas, peut-il me contredire que nous avions alloué le montant pour ces élections? Parce que d'autant plus que dans la loi de la programmation, nous avons prévu qu'il y ait une clause pour la nomination de commissaires généraux. Nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, on nous retourne que le gouvernement a répondu à un. Oui, parce que nous, en tant qu'autorité budgétaire, il n'y avait pas une rubrique concernant les élections de gouverneurs. Il n'y en avait pas. Parce que nous, on attendait les commissaires généraux après les élections des députés provinciaux.
Honorable Kakwata.
À ce moment-là, il y aura maintenant les élections de gouverneurs.
Honorable Kakwata, vous avez suivi l'honorable Pouella qui estime que par ces arrêts, ces premiers arrêts qui viennent d'être rendus par la Cour constitutionnelle, lui de l'opposition a émis un jugement, hein. Il est déçu, n'est-ce pas, par cette Cour constitutionnelle. Et l'honorable, plutôt Monsieur Jérôme Bonceau de la Limélite, qui dit que en dépit du fait que la CENI pourra réévaluer les processus électoraux, cela ne va pas solutionner les problèmes de fonds.
Non, c'est pour ça que j'ai dit il faudrait pas dramatiser une situation. Gardons le calme. Et il faudrait se comporter en homme d'État. Ne brûlons pas la case. La case est encore intacte, gardons le calme. Parce que quand on demande à la CENI de traiter en toute impartialité et indépendance, ce n'est qu'un rappel, parce que déjà quand on appelle CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante, elle est toujours indépendante. Ce n'est qu'un rappel que la Cour constitutionnelle n'a pu faire.
Merci.
Et si on dit cela n'aura pas lieu, donc on peut se dire donc, cela veut dire que le pays n'aura plus d'élections. Non, mais c'est seulement que nous devons être un homme d'État et à savoir agir. Et nous, les opérateurs politiques, nous devons aider la CENI et nous devons aider la population. C'est nous qui sommes en train de prendre maintenant la population en otage et nous ne voulons pas aider la CENI pour nos propres gloutonneries, si je peux utiliser ce terme-là. Alors essayons de d'accepter. Et quand on vous appelle autour d'une table,
merci, honorable Kakwata,
pour que de choc des idées jaillit la lumière. Alors j'interpelle tout le monde de venir, qu'on se mette autour d'une table pour bien évaluer alors et remettre à la CENI en disant CENI, nous t'aidons et nous
t'opposons. Merci, honorable.
La bonne chance, les portes ouvertes.
Honorable Fabrice Pouela, il y a une réaction, une question qui vous est adressée, elle vient de Mbandaka.
Je suis M. Yannick Mbombo, j'appelle depuis la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Je crois que cette décision de la Cour constitutionnelle tient debout, car un chaos est constaté dans des provinces démembrées. Une mesure transitoire telle que la voie de nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs est, à mon avis, bonne, car le pays traverse une situation exceptionnelle. Ne dit-on pas qu'une situation exceptionnelle convient à une mesure exceptionnelle, qu'il appartient donc maintenant à la CENI de s'activer activement pour organiser les élections de ces nouveaux animateurs des nouvelles provinces créées. Cela nous permet aussi de mettre fin à la crise des compétences créées après le découpage territorial entre les anciennes provinces et les anciens districts de la République démocratique du Congo.
Honorable Pouela.
Merci beaucoup. Je salue mon compatriote Yannick Mbombo. Mon peuple périt faute de connaissances. Je peux comprendre la lecture qu'il fait de la situation. Non, mon cher compatriote Yannick Mbombo. Un chaos est constaté. Mais qui a orchestré ce chaos? Mais vous ne savez pas que dans ce gouvernement, il y a quelqu'un qui a émis une thèse de l'inanition de la nation si on ne révisait pas la constitution. Nous sommes justement, ils ont orchestré cette phase de l'inanition de la nation. Et nous, à l'Assemblée nationale, je pense que pour cette fois-ci, si on ne l'a pas fait, après la découverte de Charny à Maluku là-bas, pour cette fois-ci, on doit le faire parce qu'on a constaté l'échec de la mise en place des nouvelles constitutions. Une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, on voit que son application est mise à mal, est mise en échec. Et la Cour devrait constater, et l'opinion, et lui, mon compatriote Yannick, doit aussi se rendre compte. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous nous rendons compte qu'on n'a pas pu? La loi, justement, de programmation, à son article 9 et 10, dit clairement que c'est dans les 120 jours qu'on installe les nouvelles provinces. Alors, 120 jours, c'est-à-dire au 13 août 2015, alors, cela n'ayant pas été fait, la conséquence est quoi? C'est de revenir à la case de départ avec la configuration ancienne, avec les provinces telles que nous les avions avant. Mais la théorie de fonctionnaire de fait existe. La continuité des services de l'État existe.
Revenir à la case de départ, c'est pas aussi réévaluer le processus électoral.
Mais bien, c'est pour ce qu'on demande de réévaluer. C'est repartir. Voilà d'ailleurs qu'on a même ouvert une fenêtre là-dessus. Parce qu'on a constaté qu'on a échoué. Alors, on échoue d'une part, on demande à la CENI de réévaluer, c'est-à-dire de revoir. Mais revoir le processus. Mais l'élection des gouverneurs aussi entre dans la même logique de ces processus. Comment on va faire deux mesures comme ça? Nous pensons qu'il faut réhabiliter, et je pense que les anciens gouverneurs de l'Équateur, du Bandundu, de la province orientale, des deux Kasaï, tout comme du Katanga, doivent continuer à expédier des affaires courantes, parce que voilà le piège qui est là. Lorsque la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles, en ayant combien de temps? Et ces mesures qui seront prises pourront courir pendant combien de temps et quel est le délai d'organisation des élections par la CENI? On dit, et lorsqu'on dit que le processus d'élection est irréversible, c'est curieux, on ne parle que
et donc,
du processus d'élection des gouverneurs et non du processus électoral dans son ensemble.
Honorable, cela veut dire qu'il ne sera pas possible de se conformer, n'est-ce pas, à la volonté de la Cour constitutionnelle sans pour autant violer la Constitution.
En ce
qui concerne notamment les délais constitutionnels.
En notre sens, cet arrêt est assez insolite. Excusez-moi, je l'ai dit en toute responsabilité, parce que la Cour a statué il s'appétite. À ce jour, quelle est l'urgence? L'urgence, mon ami Jérôme Bonso l'a dit, il faut remplir les préalables pour avoir les prémices pour avoir une bonne conclusion, c'est-à-dire il faut renouveler le fichier électoral et puis programmer les élections qui sont indispensables. Parmi ces élections, l'élection présidentielle dont le calendrier est fixé dans la Constitution. Il ne faut pas que, comme mon président de l'Assemblée nationale, qu'on dise qu'on est enfermé dans une fiction de date. Ça, c'est grave. On ne peut pas le dire, on doit se l'interdire. Sinon, on va en assumer les conséquences. Parce que le pays doit connaître des élections et nous devons refuser les glissements. D'ailleurs, nous allons en parler dans notre meeting du 15 septembre à la place
Saint-Thérèse. Jérôme Bosso, il y a une question qui vous est aussi adressée.
Félix Tchangatchanga, parti de Bukavu. Je suis un tout petit peu déçu par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je pense à mon avis que la Cour constitutionnelle vient par cet arrêt de donner à la CENI un chèque en blanc pour décider du calendrier électoral. Elle aurait pu demander à la CENI de sursuivre l'opération d'élection de nouveaux gouverneurs et au gouvernement d'adopter des mesures afin de continuer à administrer les provinces comme dans le passé, quitte à la CENI d'insérer l'élection des gouverneurs de nouvelles provinces dans le calendrier global des élections, ainsi rassurer tous ceux qui craignent le non-respect des délais constitutionnels.
Oui, M. Jérôme Bonso.
Oui, cher ami Félix, vous êtes déçu. Oui, on doit être déçu. Mais est-ce qu'on doit laisser le pays sans arriver à organiser les élections? Parce que c'est un mécanisme par lequel on accède au pouvoir. C'est par les élections, non par la violence. Et c'est pourquoi nous disons, en décrivant ce que vous venez de dire, nous nous mettons dans une problématique ou dans les hypothèques qui pèsent sur le processus électoral. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que pour aller aux élections apaisées, ça c'est le souci des uns et des autres. Ça c'est le souci de la majorité de l'opposition. Pour aller aux élections apaisées, nous devons faire des toilettages du fichier électoral. Nous devons y intégrer des nouveaux majeurs. Nous devons y intégrer la diaspora. Mais ce fichier électoral pose déjà problème. Et qualifier un fichier électoral corrompu par les uns, inadapté par la CENI. Et c'est pourquoi nous disons, avoir le courage technique de mettre sur pied un nouveau fichier électoral dont les uns et les autres tireront les conséquences. À titre indicatif, pour avoir un fichier électoral, il faut appel d'offres, 2 mois, commande du kit, 2 mois, acquisition et entreposage de matériel, 1 mois, déploiement, 2 mois, formation des agents, 1 mois. Pré-test de matériel 15 jours, enrôlement des électeurs stratégiques promène ainsi de suite, par province de façon progressive, 6 mois, analyse des données, nettoyage, 2 mois,
tout ça c'est théorique, hein. il y a aussi des imprévus. Hein.
Oui, il y a des imprévus, c'est pour vous dire, les aspects techniques pèsent beaucoup sur le processus électoral, parce que personne n'accepterait, ni l'opposition ni la majorité, d'aller aux élections avec un fichier inadapté.
À la fin de l'émission,
si vous allez fichier, conclure, ça va nous faire problème.
Vous allez conclure, vous avez parlé des préalables pour que nous puissions aller aux élections apaisées, notamment les fichiers électoraux. Entre-temps, il y a les facteurs temps qui constituent aussi une contrainte. Comment on va s'y prendre?
On va s'y prendre par l'émergence d'un consensus électoral qui est un fruit de dialogue politique. Par le remaniement du calendrier électoral, par la révision du fichier électoral en intégrant tout ce qu'on a, par l'audit externe du fichier électoral. Avec tout ça, nous pensons que le moyen ne nous permette pas, ni facteur temps d'aller aux élections. Et que faire? Qui accepterait encore des élections bâclées comme en 2011? Qui accepterait encore les élections dont résultats seront contestés comme en 2006 et en 2011? Et par consensus, nous devons nous investir dans la reconstruction du consensus électoral politique.
Merci, honorable Kakwata. Comment faire pour aller vers les élections apaisées? Vous avez suivi M. Jérôme Bonso qui a parlé des consensus politiques.
Oui, moi, pour ma part, je demande que les acteurs politiques puissent se retrouver et que nous puissions aider la CENI. Parce que c'est nous qui compliquons les choses. Et si nous trouvons autour d'une table et que nous puissions nous parler et aider la CENI à faire son travail et ne pas confisquer le pouvoir parce que nous avons fui des nouveaux majeurs et tout, et que tout cela puisse être pris en compte, je crois que la République ira de l'avant. Donc le moins, c'est d'accepter de se regarder en face et de parler et de se dire les vérités et permettre à ce que la CENI puisse aller de l'avant.
Merci,
en tant qu'autorité budgétaire, le budget viendra chez nous. Nous devons aussi consacrer et dégager des montants, parce que c'est nous qui décidons.
Merci, honorable. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci, honorable. Honorable Pouela, que faut-il faire pour aller vers les élections apaisées? Un dialogue, un consensus politique?
Pour aller aux élections apaisées, il faut sans tarder commencer le plus rapidement possible, et nous allons le dire dans notre grand meeting que nous organisons le mardi prochain à partir de 10h30 à l'esplanade de Sainte-Thérèse en Gilly.
Il faut quoi?
Il faut directement commencer le processus de renouvellement du fichier électoral, programmer les scrutins ou les élections qui sont indispensables, les élections présidentielles et les législatives nationales et provinciales.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Eric Sidiakala qui était à la technique. Merci à Alain Hirung et Kali Koupé qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision des Pelé Kipera Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.